Donc une petite précision avant de commencer ce commentaire. À la fin du commentaire, vous aurez une petite prière et il y aura des temps de silence avant et après. Et en fait, dans ces temps de silence, pour les agrandir, a été créé des coupures. Ne croyez pas que l'enregistrement est fini. En fait, l'enregistrement se termine quand vous entendrez la phrase fin de l'enregistrement. Voilà. Donc commençons le commentaire du texte de Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. En voici la lecture. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, passage très connu, hein, des rois mages. D'abord, je fais remarquer que dans le texte, on n'a pas le mot roi. C'est une tradition tardive, notamment générée par Bède le Vénérable, qui, oui, 8e siècle, a donné le titre de roi à ces mages. Tout ce qu'on sait, c'est que probablement, c'était des astrologues. Enfin, voilà. Donc, on va commencer ce commentaire, disons, de manière linéaire, petit morceau par petit morceau. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Alors, quel contraste! Vous avez un roi qui s'appelle le Grand, donc les grands de ce monde, et il y a Jésus qui naît dans une étable à Bethléem. On vous dit d'ailleurs que c'est sûrement un des plus petits chefs-lieux de Judée. C'est pour ça qu'on précise, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée. Certes, c'est là où le roi David était né, et son père Jessé. Mais il n'en reste pas moins qu'à l'époque de l'Empire romain, c'était une petite bourgade, disons, qui n'avait guère de poids. Et c'est là que Jésus naît, en contraste avec Hérode le Grand. Et Bethléem veut dire la maison du pain. Alors, finalement, quand on réfléchit, l'Eucharistie, c'est vraiment la pleine manifestation, l'actualisation de Bethléem. Parce que qu'est-ce qui est plus dérisoire, finalement, qu'une hostie où se trouve dans ce petit morceau de pain le Seigneur de l'univers? Mais Jésus l'a voulu ainsi. Il l'a voulu ainsi, pardon. Il a voulu avoir recours à l'amour. Et comme le dit saint Paul, la faiblesse de Dieu est plus grande que la force des grands. Et la sagesse de Dieu, la folie, pardon, de Dieu est plus sage que la sagesse des grands. Jésus, c'est celui qui, plutôt que de recourir à la force, va recourir à la croix pour mieux nous ressusciter. C'est la force de l'amour, de la douceur. D'où dans les béatitudes, heureux les doux. Oui. Donc c'est ce Jésus qui, a priori, ce Jésus Eucharistie aussi, Bethléem, la maison du pain, qui a priori n'a guère de puissance et qui fait guère le poids par rapport à Hérode le Grand. Et c'est pourtant ce Jésus que nous sommes appelés à adorer comme les rois mages. Donc il faut en être conscient, en tant que disciples du Christ, nous ne pouvons pas vouloir la force et le pouvoir, comme l'Église l'a trop longtemps voulu, mais heureusement, l'Église, c'est comme à l'image de Jean-Paul II pour l'an 2000, fait pénitence et se rend compte que sa force est justement dans la faiblesse et l'amour de son Sauveur. Nous-mêmes, plutôt que d'avoir recours à la force, etc., pensons avoir recours à la prière et à l'amour, qui sont les armes de Jésus, ce Jésus né à Bethléem au temps du roi Hérode le Grand. Remarquons aussi que notre Dieu est un Dieu incarné qui s'incarne dans l'histoire. C'est donc celui qui fait irruption dans nos vies aussi, concrètement, malgré sa discrétion. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Notre Dieu, comme le dit Isaïe, a des pensées qui ne sont pas nos pensées. Les mages, en fait, sont des astrologues et venus d'Orient. Alors, c'est très intéressant parce que l'Orient, à l'est de Jérusalem, se trouve tout ce qui est Babylone, etc. Et quand on regarde dans le livre de la Genèse, la généalogie de Noé, eh bien, vous avez un des fils que Noé maudit, qui s'appelle Cam ou Ham, et un de ses descendants, Ham ou Cam, va être Nimrod, qui va fonder Babylone, etc. Et donc, toute cette malédiction pour l'Ancien Testament et pour les Juifs se transmettait à toutes ces générations, à tous ces peuples. Eh bien, c'est justement de ces peuples venus d'Orient que viennent les mages. Donc, avec Jésus, eh bien, comment dire, il n'y a plus de rejet. Plus personne n'est hors de la grâce de Dieu. Donc, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous ne pouvons plus penser que certaines personnes sont irrécupérables. Tout le monde est invité. Et c'est d'autant plus frappant que les mages sont des astrologues. Alors l'astrologie est condamnée dans le livre du Deutéronome 18 comme une prostitution, et c'est vérité, parce que faire connaissance, faire, pardon, penser que des étoiles peuvent gérer notre avenir, quelle insulte à Dieu. Mais il n'en reste pas moins que c'est justement au cœur de leurs erreurs, au cœur de leur vie, que le Seigneur va les trouver par cette étoile. Alors il ne faut pas en déduire qu'on peut trouver le Seigneur par les étoiles, bien sûr, mais cela veut dire que le Seigneur trouve des chemins dans le cœur des gens, que sa grâce travaille, et que notre rôle est de l'accompagner, et non pas, disons, de l'enfermer, cette grâce. Donc, soyons toujours conscients que le Seigneur travaille dans le cœur de nos frères, quel que soit leur éloignement doctrinal ou dans la vie quotidienne, tout simplement. Il faut en être conscient parce que plutôt que de les juger et de nous crisper, eh bien nous aurons un regard bienveillant et d'amour sur eux, et nos prières se feront confiantes pour ces frères. Et justement, la suite est très intéressante à ce propos. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Justement, je disais à l'instant qu'il ne faut pas étouffer la grâce de Dieu, mais l'accompagner. Eh bien, soyons bien loin de l'attitude d'Hérode. Plutôt que de juger nos frères que nous estimons loin de Dieu, et parfois à juste titre, parce qu'ils sont idolâtres, parce qu'ils sont matérialistes, parce qu'ils sont dans des sectes, eh bien, plutôt que d'être pris d'inquiétude et de nous braquer, de nous crisper, soyons conscients, soyons confiants que Dieu trouve un chemin dans le cœur de nos frères. Et le rôle que nous avons, c'est plus tard le rôle de Marie dans ce texte, d'accompagner Jésus, de l'accompagner par notre amour, notre prière, notre compréhension. Vous voyez, le Christ, lui, s'est fait homme parmi les hommes. Il est né à Bethléem, dans une étable. Il s'est fait dérision, finalement, par rapport à ses grandes puissances. Eh bien, nous devons renoncer à tout ce qui est pouvoir, à tout ce qui est colère, et prier. Ça, c'est l'arme de l'humilité par excellence. Et cette prière doit nous pousser à aimer ceux pour qui nous prions. Voilà comment nous aurons une attitude bien loin d'Hérode. Vous voyez cette attitude? Finalement, avoir cette attitude juste par rapport au roi mage, au mage, c'est cette attitude qui n'est pas inquiète, mais qui est confiante et priante, sachant que l'étoile va briller sur eux. Cette étoile, ça symbolise finalement Jésus, hein, un petit peu comme le dit Zacharie dans Saint-Luc, l'astre du matin, c'est Jésus-Christ. Eh bien, Jésus, c'est cette étoile, et soyons conscients que Jésus va trouver un chemin dans le cœur de nos frères. Tout ce dont il a besoin, c'est de notre prière et de notre amour pour ses frères, justement. Cet amour de l'Église pour le monde, parce que, justement, nous donnons ce surcroît d'humanité et de liberté dont Dieu a besoin pour vraiment travailler le monde, tel un levain dans une pâte. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. C'est ça le mystère du Christ dont parle saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3. Le mystère du Christ, c'est en partie que Dieu veut agir par nous, mais non pas par une action, disons, où nous comptons sur nos propres forces, mais plutôt par notre prière et notre amour, notre action discrète qui passe derrière, qui se met en retrait par rapport à la grâce de Dieu. Et au lieu d'enfermer la grâce, eh bien, nous l'épaulons discrètement. Donc voilà Hérode ce qu'il fait. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. En toi, Jérusalem, enfin, et toi, Jérusalem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, ici, c'est une allusion au prophète Michée, chapitre 5, donc c'est là la prophétie. D'ailleurs, remarquons que la Bible dépasse infiniment l'auteur qui l'a écrit, parce que l'auteur en profondeur, c'est Dieu. Donc, dans la Bible, il y a des prophéties. Et la Bible, malgré son ancienneté, traverse les siècles pour nous parler maintenant et aujourd'hui. Tout comme le prophète Michée parle à ses scribes plusieurs siècles après que Michée ait prononcé cet oracle. Alors, ici, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que enfin, les pharisiens, oui, en partie, parce que les scribes et les prêtres, c'était en partie des pharisiens, eh bien, ont une connaissance de la Bible, mais qui touche leur tête et non pas leur cœur. C'est bien là le problème. Faisons très attention quand nous lisons la parole. Il faut que cette parole touche notre cœur avant de toucher notre tête. Et ici, nous sommes appelés par ce petit passage à changer notre regard par rapport à la parole de Dieu. Il faut, pour qu'elle nourrisse notre cœur, il faut d'abord la lire dans un esprit de prière. Il faut être à l'écoute de l'esprit quand nous lisons la parole de Dieu, pour justement dépasser la lettre et l'histoire, pour aller à la lecture spirituelle. Finalement, ici nous avons un passage, on va dire, allégorique. L'allégorie consiste à nous montrer ici que d'une lecture historique, nous devons passer à une lecture spirituelle. C'est un petit peu la démarche que nous sommes appelés à faire en contraste avec ce que font les scribes et les pharisiens. Alors, en profondeur, nous comprendrons mieux la parole de Dieu. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, soyons humbles et priants. Et surtout, ayons recours à l'interprétation spirituelle qui consiste à actualiser cette parole dans nos vies, avoir Jésus-Christ dans cette parole, etc. Ne restons pas prisonniers de la lettre. Autrement, comme ces pharisiens, nous remplirons notre tête, mais nous passerons à côté de l'essentiel. Alors, continuons, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Vraiment, soyons vigilants de ne pas être comme Hérode, hypocrite et avoir une double parole. Dire d'une manière et agir de l'autre, c'est ce que fait Hérode. Et pourquoi Hérode fait ainsi? C'est parce que plutôt que d'avoir un regard spirituel et priant sur les choses, il est attaché à la vie matérielle et à son pouvoir. Nous-mêmes, gardons-nous bien d'être attachés à notre confort, à notre vie matérielle, mais ayons toujours les yeux tournés vers le Seigneur par une lecture priante et spirituelle de la parole de Dieu. Alors nous éviterons cet obstacle qui est de dire blanc et de, enfin de dire noir, de faire blanc de faire blanc et de dire noir. Faisons très attention. Mais ce qui est beau ici, c'est que malgré les erreurs d'Hérode, malgré ses stratagèmes, eh bien, les rois mages vont partir et ils vont suivre l'indication d'Hérode qui leur donne quand même une indication juste, Bethléem. Alors cela peut nous rendre confiants et nous protéger des remords, parce que, il faut bien le dire, en tant que chrétien, notre comportement n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances, et quelquefois nous avons eu des comportements bien contre-productifs, et au lieu d'amener des gens vers Jésus, d'être une icône du Seigneur, nous avons été un mur et un obstacle. Eh bien, vraiment, prions le Seigneur pour qu'à l'image de ce qu'il a fait avec Hérode, il sache quand même guider ces gens que nous avons déroutés, comme il a su guider les mages par l'indication d'Hérode, que nos maladresses, bien loin d'être un obstacle, servent le but de Dieu. Et fort de cette conviction, eh bien, soyons, comment dire, pleins de louanges pour la miséricorde du Seigneur, qui change le mal en bien, comme il est dit dans la Genèse au chapitre 50, c'est Joseph qui dit ça à ses frères. Oui, le Seigneur peut changer le mal en bien, tout comme il a changé la fourberie d'Hérode en une indication qui va conduire les mages au Fils de Dieu. Donc nous-mêmes soyons conscients que malgré nos erreurs, par notre prière et notre repentance, eh bien, ces erreurs ne sont pas irrémédiables et fatales, mais que le Seigneur peut en tirer du bien. Oui, que le Seigneur en soit loué. De même, ne soyons pas crispés et découragés, mais le Seigneur, malgré tous les obstacles qui s'opposent à lui, à sa parole et à sa grâce, eh bien, il trouvera un chemin dans le cœur de nos frères. Malgré ce qu'on peut voir dans les médias, tout ce qu'est la foi chrétienne et ringardisée, l'Église, etc., soyons confiants, le Seigneur trouvera un chemin, comme il l'a trouvé pour les rois mages, malgré la fourberie d'Hérode. Alors, Continuons. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie et sa mère. Alors, voilà, ici, alors, remarquons toujours que le Seigneur travaille toujours discrètement, et il prend les gens où ils en sont, avec leur réticence, et petit à petit, eh bien, de l'étoile, il les conduit vers Jésus, et il va les conduire vers l'adoration. Alors, nous-mêmes, prenons les gens où ils en sont, et prions pour eux, et aimons-les là où ils en sont, plutôt que de vouloir les façonner trop rapidement, souvent même pas à l'image de Dieu, mais à notre image. Soyons bien conscients que c'est une erreur à éviter absolument, et plutôt, comme Marie, soyons à côté de l'enfant pour accueillir les mages dans leur adoration. Soyons à côté de Jésus, dans son amour très compréhensif et patient pour les mages. Il a su les conduire vers lui par l'étoile, dans leur fausse doctrine qu'était l'astrologie. Eh bien, le Seigneur a su les guider, et il a su les conduire de cette adoration, de cette idolâtrie à la véritable adoration. Et qu'est-ce qu'a fait Marie? Marie se tient aux côtés de Jésus. Jésus veut ce comportement, plutôt qu'Hérode, qui veut tout réglementer, régimenter, et veut imposer à Dieu sa façon de voir, et plus inquiet de sa propre réputation et de son propre pouvoir que de la gloire de Dieu. Eh bien, soyons l'image de Marie, aux côtés de Jésus, par notre amour pour ceux qu'il aime, par notre prière, qui va épauler sa grâce dans le cœur de nos frères, dans le cœur de ce monde. Et ici, je fais une petite parenthèse, mais c'est une interprétation, toujours une interprétation allégorique, mais Jésus, si vous voulez, ici, l'attitude d'Hérode, c'est tout ce qui est Ancien Testament aussi, par rapport à ce qui fait la nouveauté de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, c'est-à-dire la grâce, cette relation personnelle avec Dieu. Eh bien, les autres religions n'en sont pas exempts. L'originalité de Jésus, c'est qu'il nous propose une relation personnelle. Il veut que l'on vienne vers lui et il nous respecte infiniment. Eh bien, beaucoup d'autres religions veulent enfermer Dieu par les œuvres. On veut gagner son paradis par les œuvres. On veut, par exemple, ça me frappe toujours dans la religion musulmane, finalement, leur Dieu est bien raisonnable quelque part, tout en étant tout puissant. Parce qu'on ne comprend pas le dogme de la Trinité. Bon, on ne peut pas le comprendre intellectuellement, mais par l'amour, on peut l'approcher. Eh bien, on veut dicter souvent à Dieu ce qu'il est bon ou pas de croire, alors qu'avec Jésus, c'est la folie de Dieu. C'est la croix, c'est la Trinité, c'est le Dieu fait homme, celui qui s'incarne à Bethléem. C'est ça la nouveauté du Nouveau Testament. Et comme Marie, soyons aux côtés de Jésus et simplement épousons son amour fou pour l'humanité. Alors continuons. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui, ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc vous voyez, eh bien, ils finiront, nos frères que nous aimons, que nous essayons d'aimer à la manière du Christ, avec l'aide du Christ, à l'image de Marie, en étant patients, en priant pour eux, eh bien, soyons confiants, ils finiront, justement, par trouver le chemin et offrir leur présent à Jésus. Et remarquons qu'ici, ils offrent l'or et l'encens, ce qui nous rappelle Isaïe au chapitre 60, où il est dit que les gens de Saba et toute l'humanité viendra offrir l'or et l'encens à Jérusalem. Mais ce qui est important ici, c'est que pour offrir l'or et l'encens, il leur faut aussi offrir la myrrhe. C'est un élément nouveau dans ce texte par rapport au texte d'Isaïe. L'or, c'est vraiment reconnaître la royauté de Jésus dans nos vies. L'encens, c'est reconnaître sa divinité. Et pour que les gens et pour que ce monde reconnaissent Dieu en Jésus-Christ comme leur roi et leur Dieu, justement, il faut passer par la myrrhe. La myrrhe, c'est la passion du Christ. C'est son amour, sa patience, sa souffrance. Il faut que l'Église et nous-mêmes, nous sachions être myrrhe à l'image, en épousant Jésus, à l'image de Marie qui a souffert aux côtés de son fils, pour que les gens puissent amener l'or et l'encens. Ce n'est pas par la force, par la puissance que nous amènerons les gens à une véritable adoration, mais c'est en adorant ce Jésus à qui on offre la myrrhe, à l'image de Marie, en nous faisant prière, en souffrant aussi pour ces gens qui sont loin de Dieu. Mais cette souffrance, elle est aussi confiance en l'action de Dieu, comme je le disais. Ce n'est pas désespérance. Eh bien, en priant, en redoublant de prières pour ses frères, parce que nous souffrons du fait qu'ils sont loin de Dieu, et en les aimant pour les aider le plus possible et pour donner la main à Jésus, pour qu'ils puissent grandir en leur cœur. Eh bien, c'est ça être la mire. Et justement, par cette mire, nous conduirons les gens à amener l'or et l'encens. Enfin, notons la fin du texte, mais ensuite avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode et regagner leur pays par un autre chemin. Gardons-nous d'être comme Hérode, parce que vous voyez, si Hérode avait vraiment accueilli la parole de Dieu, les mages seraient venus à Jérusalem et comme en Isaïe 60, ils auraient continué leur offrande à Jérusalem, ils auraient appris ce qu'était la Bible. Au lieu de cela, eh bien, ils vont retourner par un autre chemin, que de siècles perdus avant que l'Évangile les gagne et que la vraie doctrine arrive à eux. Soyons bien conscients qu'il ne faut surtout pas être un obstacle à Dieu, même si je dis tout à l'heure que Dieu tire du bien du mal, mais que de souffrance, que de retardement par nos maladresses, comme Hérode, voyez, qui, à cause de son attitude, force les mages à regagner leur pays, donc à regagner leurs erreurs, et ceci par un autre chemin que le chemin de Jérusalem, le chemin de la parole de Dieu, là où se trouve le vrai Dieu. Eh bien, prions le Seigneur pour que nous soyons vigilants de ne pas agir comme Hérode et de ne pas retarder la grâce de Dieu, mais bien de l'accompagner. Voilà. Je vous propose maintenant de prier, si vous le voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix et enfin je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Ô Seigneur, donne-nous cette vision spirituelle des choses. Apprends-nous à être ceux qui sont de la mire. Apprends-nous à être comme Marie à tes côtés, priant et aimant. Toi, le Dieu qui naît à Bethléem, pauvre parmi les pauvres. Oui, Seigneur, et fort de cet amour, renforce notre foi. Que tu finiras par trouver un chemin dans le cœur de nos frères pour qu'ils t'apportent l'or et l'encens. Et pour ce faire aussi, protège-nous d'être comme Hérode, d'être de ceux qui détournent ces frères qui viennent vers toi en les forçant à prendre un autre chemin. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, cher internaute. Fin de l'enregistrement.